Rencontre littéraire, Václav Richter.
Le 24 mars 2006, le public pragois a fait un triomphe aux artistes de l'ensemble français Le Poème Harmonique et de l'orchestre tchèque Musica Florea qui ont présenté au Théâtre des États la comédie-ballet de Molière et de Lully, Le Bourgeois Gentilhomme. Revenons sur quelques aspects de cette reconstruction réussie d'un chef-d'œuvre. Chambord, le 14 octobre 1670. On donne la comédie-ballet Le Bourgeois Gentilhomme, créé pour le roi Louis XIV par Molière et Lully. Ce spectacle n'est pas un simple divertissement, c'est aussi une vengeance royale. Le roi se venge par cette turquerie de la vexation que lui a infligée en 1669 à Versailles l'envoyé du Grand Turc, un simple émissaire qui ne s'est pas laissé impressionner par le faste déployé en son honneur. C'est Molière lui-même qui incarne le personnage de Monsieur Jourdain, un marchand de draps aux prétentions aristocratiques, un snob avant la lettre, désirant ardemment faire partie de la noblesse. Le compositeur Lully, lui, joue le rôle de mufti. Le spectacle est tout simplement irrésistible, le roi est ravi et le fait représenter 6 fois d'affilée. Par la suite, Le Bourgeois Gentilhomme deviendra une des comédies les plus célèbres de Molière et sa popularité ne se démentira pratiquement jamais. Pourtant, malgré les innombrables reprises de cette pièce, le public des siècles suivants ne verra plus la comédie-ballet de Molière et de Lully, mais une simple pièce de théâtre. Le spectacle dans lequel les auteurs ont réussi à coudre ensemble théâtre, musique et danse sera oublié. Presque 3 siècles et demi plus tard, l'ensemble Le Poème Harmonique et l'orchestre Musica Florea tenteront une résurrection de ce spectacle complet, chercheront de nouveau à marier la comédie, la musique et la danse pour retrouver la force, l'humour et le charme de cette œuvre commune de Molière et de Lully. Ce n'est pas un simple dépoussiérage. On doit revenir aux sources. Le metteur en scène du spectacle, Benjamin Lazare.
Il y a beaucoup de sources, oui. Il faut, disons que, on part de l'idée que une recherche historique et une recherche historique qui passe bien sûr par les livres mais qui passe ensuite par l'expérimentation sur scène est en fait un formidable moyen d'ouvrir l'imagination du spectateur et de l'acteur, que c'est pas du tout pour empêcher la création personnelle, au contraire c'est le fil du cerf-volant qui lui permet de voler, voilà. Donc les sources existent sur la façon de faire les instruments. Je crois que le travail sur la musique baroque commence à être bien connu. Sur le recoupement entre partitions, méthodes d'interprétation. Au théâtre, il y a des ouvrages sur la déclamation, sur la gestuelle, et puis il y a les sources, les gravures. À Prague, dans une ville comme Prague, c'est tout à fait extraordinaire, parce qu'il suffit de tourner les yeux pour voir des exemples, des indices de ce travail-là, sur la gestuelle, par exemple. Donc les sources sont nombreuses, oui.
Paradoxalement, malgré le respect méticuleux des traditions, malgré le caractère historique de cette reconstruction, la pièce du XVIIe siècle étonne aujourd'hui par sa fraîcheur et, on ose dire, par sa modernité. Le chef de l'ensemble, Vincent Dumestre, explique ce paradoxe.
En fait, la modernité dans ce spectacle, c'est le fait d'essayer de recréer une tradition perdue. La tradition de la rencontre entre la danse baroque, le mime aussi qui va être présent dans ce spectacle, la musique, les arts de la scène de la comédie, cette tradition a disparu depuis le XVIIIe siècle en fait. Donc le fait d'essayer de retrouver ces arts, de les remettre ensemble et de recommencer une histoire, c'est une nouvelle histoire, donc c'est vraiment, on est au centre même d'un modernisme, d'une invention, d'une créativité, en essayant d'être fidèle, par contre, à la manière dont les œuvres ont été composées, écrites et pensées.
Tout les moyens sont mobilisés pour la réussite de cette résurrection. Les décors à l'italienne, les costumes somptueux, la musique interprétée par des instruments d'époque. La déclamation et la gestuelle des comédiens sont soumises aux règles du XVIIe siècle. L'éclairage électrique est banni et remplacé par la lumière vivante et frémissante de la bougie. Benjamin Lazare.
Alors il y a plusieurs choses pour cet éclairage à la bougie. Il y a, outre la vérité historique de la chose, quand chez le roi c'était à la bougie pour les représentations de nuit, il y a d'abord le fait que la lumière à la bougie est absolument irremplaçable. On peut absolument pas imiter la chaleur, la couleur de la bougie. Il y a le fait que ça donne une énergie particulière au spectacle, que ça soit pour les acteurs qui ont la présence du feu, que ce soit pour les spectateurs aussi, qui voient au début du spectacle les flammes, et puis ensuite quand elles sont cachées par les caches-flammes, ça, on les voit plus et la luminosité augmente de ce fait. Ça, c'est une expérience partagée et très forte. C'est intéressant pour le jeu de l'acteur parce que c'est lui-même qui devient son propre éclairagiste, je dirais, puisque par la façon dont il va se rapprocher ou s'éloigner de la rampe de bougie, il va créer dans son dialogue des moments d'intimité ou des moments plus généraux, enfin de plus de grandiloquence ou de choses comme ça, rien que par l'art qu'il a de s'éloigner, de baisser la tête, de relever la tête, pour créer des ombres ou de la lumière sur son visage.
C'est l'humour qui est une des facettes les plus importantes de ce spectacle et de cette réussite. L'humour est une chose fragile qui vieillit vite. Comment retrouver donc l'humour du temps de Molière? Le public actuel peut-il rire aux mêmes répliques et aux mêmes situations que les spectateurs du grand siècle? Vincent Dumestre.
Il n'y a pas un esprit plus inventif et plus intéressant que Molière dans la langue française, je pense. Et notamment pour le rire, les ficelles qu'il utilise et les manières d'écrire et de composer que Molière utilise avec Lully sont extrêmement fortes et évidente, à condition qu'on n'essaye pas de rajouter une interprétation justement moderne, mais qu'on essaye simplement de faire ce que nous demande un compositeur de faire.
Ainsi, l'histoire de Monsieur Jourdain, ce bourgeois ridicule qui veut devenir gentilhomme, devient aussi notre histoire. Nous, les gens du XXIe siècle, sommes aussi sujets à divers snobismes. Nous aussi adorons les idoles de pacotille. Cependant, nous sommes sans doute moins drôles et moins amusants que ce bourgeois qui se laisse berner, qui n'aura pas ses titres de noblesse, mais qui, en cherchant à se hisser plus haut sur l'échelle sociale, découvre la beauté du monde.
C'est un homme qui veut changer de condition sociale, donc en ça il est critiquable, il est naïf évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a une autre facette du bourgeois gentilhomme, c'est que ce qu'il aspire à être et les talents qu'il aimerait avoir et les arts auxquels il essaie de s'intéresser sont beaux. Et c'est cette facette-là qu'on essaye aussi de montrer du bourgeois gentilhomme, qu'il n'est pas seulement drôle, il est émouvant, il est très touchant. Et il est juste, quelque part, dans son discours. Quand il énonce les voyelles A, E, I, O, U, et qu'il découvre la beauté des voyelles françaises, on est comme lui. On est touché par la beauté des voyelles françaises. Et en plus, ça nous fait rire, parce que c'est ce côté naïf, enfantin du personnage. Mais il y a ces deux aspects, effectivement.
Nous sommes revenus sur quelques aspects de la reconstruction de la comédie de Molière et Lully, Le bourgeois gentilhomme. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Jarka Fikrlova, réalisation technique, et à Aleš Krupka, prise de